des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Ça a été une semaine active à l'Assemblée nationale et on va aller rejoindre ceux qui arpentent les couloirs, mes amis, les correspondants, pour parler d'abord du Parti libéral. Bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Bonjour Marc-André Gagnon.
Salut.
Donc, deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale. Commençons justement, comme je l'ai dit, le Parti libéral du Québec, le mouvement n'importe qui sauf Coder. Et c'est toi qui nous as appris l'existence de ce mouvement-là, Geneviève.
Oui, ben, on se souvient tous que l'arrivée de M. Coder, en tout cas, son arrivée possible dans la course à la chefferie, hein, il s'intéresse donc à la course à la chefferie. Il n'a pas encore confirmé qu'il sera candidat. Mais en tout cas, tout porte à croire qu'il le sera. Bien sûr, on attend son voyage à Compostelle, là, mais on s'attend à ce qu'il soit candidat pour succéder à Dominique Anglade. Donc, son arrivée, hein, tout le monde s'est mis à parler du Parti libéral. Une bonne chose, puisqu'on en parlait peu, faut le dire. Mais si plusieurs ont vu ça d'un bon œil, il y en a plusieurs qui ont déchanté aussi après, parce que M. Coder s'est prise de position, notamment sur la loi 21. Mm-hmm. Ça, c'est en tout cas, c'est très problématique aux yeux de beaucoup de libéraux.
Donc, oui, rappelle-nous, lui, il est pour la loi 21, puis pour
l'interdiction,
la clause non-obstant.
Oui. Oui, l'interdiction des signes religieux chez certains employés de l'État, même les profs. Pas de problème avec ça pour M. Coder. Et lui, il reconduirait la clause dérogatoire à la Charte fédérale qui protège, d'une certaine façon, la loi 21 des protestations judiciaires. Donc ça entre en conflit complètement avec les positions traditionnelles du Parti libéral. Et c'est ce qui pousse, justement, les bonzes du Parti libéral, les éminences grises, à se chercher d'autres candidats qui vont pouvoir faire le poids contre M. Coder. Et d'un coup, il y en a qui se mettent à rêver, à prier pour qu'il y ait des élections fédérales, hein, et puis que certains candidats puissent arriver justement sur la scène politique provinciale.
Ah, OK, parce que ça libérerait des libéraux, c'est ça, à Ottawa, qui pourraient être aussi des libéraux à Québec.
Ben, on entend sans arrêt le nom de François-Philippe Champagne, le ministre fédéral. Bien sûr, lui, il quittera pas son poste au fédéral pour venir ici à Québec, mais si jamais il y avait des élections fédérales, d'un coup, ça changerait la course.
Ben oui.
Mais bon, tout ça, c'est du rêve pour le moment parce qu'on n'est pas là. Il y a certains candidats qui se présentent. On entend le nom de Carl Blackburn, qui est le grand patron du Conseil du patronat du Québec. Ensuite aussi Charles Milliard, qui est aussi le président, le grand patron, le chef de la direction de la
Fédération des chambres de commerce.
Voilà, des chambres de commerce.
Moi, je trouve qu'il est bien nommé, Monsieur Milliard, hein.
Il a un nom pour le boulot.
C'est ça, il a le nom de l'emploi.
Tout à fait. Donc, il y a plusieurs candidats qui se manifestent, mais bon, au bout du compte, faudra attendre d'abord d'avoir les règles de la course à la chefferie parce qu'on les connaît pas encore. On sait que ça va être un chef qui sera élu au printemps 2025, mais quand la course va commencer, quelles seront les règles? Bon, ça prend combien de candidatures en soutien? Combien d'argent vont pouvoir être investis? Mmh. Va pouvoir être investi. Donc, ça, on ne connaît pas encore tout ça.
S'en vient, par exemple. Hein? Je pense que c'est dans un conseil général prochain.
Oui, le 25 mai, on s'attend à ce que les règles soient dévoilées, si ce n'est pas avant, me dit-on. Donc, on pourrait peut-être même les connaître un petit peu avant. Bien sûr, dans le caucus à l'heure actuelle, en tout cas de Denis Coderre, il y a très peu d'appui, mm-hmm. pour ne pas dire aucun. Il y en a, et j'ai entendu dire cette semaine, Antoine, que si jamais il n'y avait pas de candidat sérieux, est-ce que les députés pourraient s'unir et se désigner eux-mêmes un candidat pour faire contrepoids à M. Coder? C'est une idée que j'ai entendue circuler cette semaine.
Un volontaire!
Oui, voilà. Alors, qui qui laisserait, qui déciderait d'aller dans la course, mais seulement pour le parti. Hein?
Ça serait un geste sur le cœur, d'abnégation.
Ouais, exactement.
Marc-André, là-dessus, sur le Parti libéral, toi, t'as écrit sur Coderre aussi.
Ouais, ben c'est qu'en attendant, j'aurais envie de dire quelle course. Il n'y a pas de course véritablement larvée. Bon, on entend beaucoup parler de Denis Coderre. Ça a mis quand même l'emphase sur cette course à la chefferie qui n'est pas encore commencée officiellement. Ensuite, ben Fred Beauchemin à l'Assemblée nationale, on peut pas dire qu'il rayonne énormément. Je pense qu'il y aura beaucoup de travail à faire pour se fabriquer une personnalité s'il songe sérieusement à être sur les rangs. Puis dans le cas de Denis Coderre, tu sais, je pense que ça prouve qu'en politique, Antoine, on peut aller loin avec un minimum de notoriété. Tu sais, c'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Denis Coderre, quand une personnalité connue débarque dans le paysage, dans une course comme ça, ça provoque toujours beaucoup d'effervescence. Le PQ l'a vécu dans une certaine mesure avec Pierre-Carl Péladeau, mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais pour revenir au PLQ, j'ai bien hâte de voir si leur course, si course il y a un jour, nous réserve une ou peut-être même des surprises. Mais surtout, il faut pas sous-estimer la capacité du PLQ à rebondir. Là. On parle d'un parti qui a plus de 150 ans d'histoire, donc ce sera certainement intéressant à suivre.
Surtout avec la montée du Parti québécois, donc l'épouvantail d'un possible référendum qui revient, là, ça pourrait aider les troupes libérales, effectivement. Le véritable parti fédéraliste, comme se plaisent à le dire les libéraux. Là.
Mm-hmm. Et avec un chef comme Milliard, il pourrait revendiquer le Parti de l'économie encore plus facilement. En tout cas. Parlons budget, vu qu'on parle de milliards. Marc-André, on a la date?
Oui, on a la date. C'est le 12 mars, donc prochain budget Girard. À quoi s'attendre? Ben, un déficit plus important que prévu. On se rappelle que François Legault s'est entouré dimanche dernier de Sonia Lebel puis de Bernard Drainville pour mettre la table en annonçant que le prochain budget serait largement déficitaire. C'est rien de nouveau, hein. Quand on se souvient que la dernière fois qu'on s'est parlé, Antoine, c'était au terme du caucus précessionnel de la CAQ à Sherbrooke à la fin janvier. Et qu'est-ce que disait François Legault? Ben, que les hausses salariales des employés de l'État auront un impact significatif, disait-il à ce moment-là, sur les finances du gouvernement. C'est ce qu'il a réitéré cette semaine. Donc, il n'y aura pas de coupure de service ni de hausse d'impôts, mais il faut s'attendre donc à un déficit plus important que prévu. Il faut se rappeler que les hausses salariales qui ont été incluses là, dans les ententes conclues avec les syndicats de la fonction publique, c'est 17,4% sur 5 ans. On parlait à un moment donné de mémoire de 11 milliards par année, donc ça entraîne des dépenses plus importantes que celles qui étaient prévues dans la mise à jour économique de novembre. Donc, pour le 12 mars, deux questions, je pense. Combien pour le déficit? Et à quand aussi le retour à l'équilibre budgétaire, donc, qui était d'abord espéré pour 2027-2028. C'est une cible qui, de toute évidence, va être reportée de quelques années.
Geneviève, sur le budget? Un petit mot?
Oui, un petit mot. Le ministre Girard a quand même souligné tout à l'heure que les rentrées d'argent au gouvernement sont beaucoup moins importantes que prévu. Hydro-Québec et compagnie. Donc, il faut s'attendre quand même à une réduction de la croissance des dépenses. Alors là, il faudra voir où on verra une diminution de la croissance des dépenses. C'est ça qu'on va chercher quand on va obtenir les documents du budget là, dans deux semaines.
On a connu ça sous les libéraux, des diminutions d'augmentation de la croissance. Il y avait de la croissance, mais pas beaucoup.
Non, puis là...
moment-là, on parlait d'austérité.
Le ministre Girard a bien tenu à dire qu'il ne s'agissait pas d'austérité. Et François Legault n'arrête pas de dire... Pas de l'austérité, de la rigueur, c'est différent.
Croirait entendre Carlos Letao. Oui, Marc-André.
Ben, il reste que le défi, tu sais, donc, pour revenir à ce qu'on disait, d'ici la fin du mandat, ce sera de rassurer les Québécois sur le retour éventuel à l'équilibre budgétaire, puis aussi sur la date là, qui est retenue, pourquoi le 12 mars? Moi, je vois peut-être là-dedans une façon de contrôler l'agenda. On voit que ça va pas très bien pour la CAQ depuis le début d'année. François Legault disait vouloir éviter les distractions. Là, il y en a beaucoup. depuis les dernières semaines. L'an dernier, le budget a été présenté le 21 mars. De mémoire, je pense qu'il faut revenir à l'année du début de la pandémie là, en 2020 pour un budget.
C'est un budget hâtif, hein, c'est ça?
Quand même. Et là, tu sais comment ça se passe. Hein? Quand on présente le budget, ben là, par la suite, on en parle pendant des semaines. Éventuellement, il y a l'étude des crédits budgétaires et tout ça. Donc, ils vont occuper beaucoup de place dans l'agenda médiatique, disons, avec le budget.
Un sujet qui a énormément fait parler, justement, aujourd'hui, jeudi, c'est les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils devraient pouvoir avoir le droit d'envoyer leurs enfants dans les CPE, les centres de la petite enfance? Geneviève, tu as écrit là-dessus?
Oui, d'abord, je dois décerner dès maintenant le prix du terme le plus utilisé de la session. C'est une prédiction. Demandeur d'asile. Hein? Je sens qu'on va entendre parler de demandeurs d'asile à toutes les semaines. Ça avait commencé cette semaine, hein. Il y a eu comme une séquence d'événements. Hein. Au début de la semaine, on a 4 ministres qui se présentent pour nous dire que c'est dangereux, c'est une menace à l'identité québécoise que cet afflux de demandeurs d'asile, la pression sur l'éducation, les hôpitaux, les logements.
C'était pas leur message principal quand même, Geneviève.
Non, mais là on est rendu aux garderies. Alors il y a eu quand même une séquence, une montée du discours. Et puis aujourd'hui, c'était les garderies. Effectivement, hier, le gouvernement a déposé une demande de sursis en lien avec une décision de la Cour d'appel qui donne le droit, en fait, aux enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les garderies et les garderies subventionnées et les CPE. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Monsieur Legault a dit, écoutez, moi, ce que je veux, c'est que les Québécois, les enfants des Québécois, d'abord, ait accès aux garderies subventionnées, aux places subventionnées. Mm-hmm. Même là, on a su que ça allait, selon les prévisions du gouvernement, ça pourrait, il faudrait qu'ils ajoutent 5000 places supplémentaires, des places qui n'ont pas encore qui sont pas encore prêtes. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement Legault s'est engagé à livrer 37 000 places en garderie d'ici 2024-2025. Ça, c'est demain matin. Là. Et puis là, avec les demandeurs d'asile, ça, il en faudrait 5 000 de plus. Donc ça, c'est l'estimation du ministère de la Famille là, qu'on a obtenue tout à l'heure.
On n'arrête pas de dire que nos services sont sous pression, que le Québec craque de partout. C'est sûr que d'ajouter encore des gens qui ont pas nécessairement, tu sais, logiquement, pas nécessairement, devraient pas avoir accès à ce type de service-là. C'est ajouter un fardeau sur des services qui déjà croulent sous la pression.
Mais
d'une certaine façon, c'est un peu ce que le gouvernement dit, là.
Mais le gouvernement est quand même isolé, hein, dans son coin. Tous les partis d'opposition ne sont pas d'accord avec lui là-dessus. Et ce qu'on plaide notamment du côté de Québec solidaire et aussi du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, c'est que aller à la garderie, c'est une des meilleures façons d'intégrer les gens et de les franciser. Hein. On le sait tous, là, on a des enfants à cet âge-là, entre 0 et 4 ans, là, c'est des éponges. Alors, quand tu les envoies à la garderie très tôt, ils apprennent très rapidement le français. Alors, c'est aussi ce que plaident des partis d'opposition. Même le Parti québécois, hein, qui lui aussi est d'accord avec ça.
Ça a fâché François Legault, ça.
Oui, François Legault, de toute façon, à chaque fois qu'il va pouvoir s'en prendre à Paul Saint-Pierre Plamondon, il le fera. Et là, il le fait encore aujourd'hui pour les demandeurs d'asile.
Marc-André, parlons de Rabaska. C'était toute une histoire, ça. Il y a quoi? Il y a 15 ans, Rabaska? Je me souviens, j'ai couvert ça comme reporter. C'était ce grand projet de gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié sur la rive sud de Québec.
Ouais, à Lévis.
Il y a du nouveau là-dessus. Parce que si je me souviens de toute cette controverse avec la commission de protection des terres agricoles et tout ça. Dis-nous ce qui se passe.
C'est un développement majeur. Donc, Rabaska, pour situer les gens, ça devait voir le jour à Lévis, effectivement, un projet mort-né qui était hautement controversé de port méthanier.
De port méthanier, oui, c'est ça,
exact.
Excuse-moi, oui.
Donc,
j'ai parlé de GNL,
oui. Oui, c'était c'est ça, donc de GNL. Et le BAP avait donné le feu vert hein, au promoteur qui avait d'ailleurs procédé à une série d'acquisitions pour réaliser son projet, donc qui finalement n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Non pas en raison de la contestation, mais en raison de l'effondrement du marché du gaz naturel liquéfié. Tu sais, pour donner une idée aux gens, Le terrain où va être implanté Northvolt en Montérégie, dont on parle beaucoup dans les derniers jours, est d'une superficie...
L'usine de batterie, là, oui.
C'est ça, total de 172 hectares. Celle du défunt des terres, là, du défunt projet Rabaska, 272 hectares. Donc, 100 hectares de plus. Et ce que
c'était
le gouvernement...
grand.
C'est, oui, c'est immense comme terrain. Donc, Québec a racheté ces terres-là pour la somme de 38 millions de dollars. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a dit que ça correspondait au prix du marché. Il y a un peu plus du tiers de ces terres-là qui vont être retournées en zone agricole, ce qui est quand même un événement rarissime. Et ben à quoi on peut s'attendre maintenant pour la portion industrielle des terres qui demeure? Ben le port de Québec, on sait qu'il a participé aux discussions avec le gouvernement et il y a une extension de ses activités sur la rive sud qui est envisagée. Le port, dans une réaction écrite, faisait valoir que le terrain, là, c'est le seul, parce qu'il est en bordure du fleuve Saint-Laurent, le seul au Québec qui réunit une profondeur d'eau naturelle de 15 mètres, en plus d'offrir une connexion au réseau ferroviaire et routier nord-américain. Donc, pour eux, il y a quand même un intérêt là. Et ce que je me demande, Antoine, c'est si... les terres de Rabaska pour le port de Québec, ça pourrait être leur revanche pour l'échec de Laurentia, qui était un autre projet majeur mort-né, en eau profonde, mais cette fois-ci du côté nord du fleuve, dans le secteur de Beauport, qui a été rejeté par le gouvernement fédéral en raison des possibles effets environnementaux négatifs. Laurentia, là, on parlait d'ajouter une ligne de quai dans le secteur de Beauport.
C'était énorme, Laurentia aussi.
On remblayait le fleuve sur 14 hectares. Projet-là avait l'appui de la CAQ. Donc maintenant, on comprend que le port a l'appui de la CAQ aussi pour un projet du côté de Lévis. Moi, j'ai très hâte de voir quelle sera la suite des choses et s'il y aura une levée de bouclier semblable à celle que l'on voit en ce moment pour Northvolt en Montérégie.
C'est classique, ça, les levées de boucliers ces temps-ci.
Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Monsieur Fitzgibbon trouve qu'il y en a trop.
Ce sera peut-être une autre. Bernard Drainville, lui, a par contre vraiment célébré cette nouvelle-là comme un succès. On sait qu'il a travaillé très fort, notamment pour aider le chantier maritime, l'industrie navale qui connaît vraiment... Un essor qui revit de façon importante. Moi, plus jeune, j'ai vécu le déclin total de l'industrie maritime du côté de l'Ozon.
Parce que t'habitais dans ce coin-là.
Exact, J'ai grandi là. Et Rabaska, c'est aussi dans le secteur de l'Ozon, un petit peu plus près de Beaumont. Mm-hmm. Et je sais que Bernard Drainville nourrit de grandes ambitions donc pour les terres de Rabaska, peut-être donc pour des entreprises qui auraient un lien avec la filière maritime. Donc, ce sera à suivre, mais... certainement un potentiel important de développement économique pour Lévis. Maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire sur la nécessité d'un éventuel troisième lien, Antoine?
Mon Dieu!
Je lance la question en l'air comme ça.
Le monstre du troisième lien qui... cette espèce de serpent de mer qui revient tout le temps. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
Au plaisir.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Puis on se reparle très bientôt. Je rappelle que vous êtes correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Puis vous êtes nos yeux et nos oreilles dans les couloirs. Merci beaucoup.